Émission spéciale, le chaos libanais.
Au début, j'ai cru que c'était un tremblement de terre parce qu'il y avait plusieurs mouvements et plusieurs sons. J'ai senti le faux plafond commencer à tomber sur ma tête. Et puis, il y a eu la grande explosion et voilà, tout a bougé partout. Il n'y a aucune vitre qui tient, donc tout le monde a besoin de vitre, tout le monde a besoin d'aluminium. C'est sûr que le Liban n'a pas la capacité de faire ça. Tous mes amis, toute la famille, ils ont perdu leur maison, ils ont perdu tout ce qu'ils ont travaillé si fort pour ça. Et c'est sûr que les assurances ne vont pas compenser parce que c'est quelque chose qui sort de leurs conditions. J'arrive pas à réaliser. Pour moi, ils sont tous responsables. Chacun va trouver quelqu'un pour dire que c'était pas ma faute, c'est la faute à l'autre. Mais en effet, c'est la faute à tout le monde.
Tous les habitants de Beyrouth se souviendront de ce mardi 4 août 2020 et de cette déflagration qui a secoué la capitale peu après 18h, heure locale. Une explosion d'une telle puissance qu'elle a été ressentie jusqu'à Chypre. Le récit que vous venez d'entendre est celui de Michelle, une commerçante dont le magasin d'alimentation a été entièrement détruit. On va en parler et on va entendre d'autres témoignages sur la situation à Beyrouth pendant cette émission. Mais d'abord, présentons nos invités. Bonsoir Agnès Levallois. Bonsoir, vous nous entendez ?
Oui, très bien.
Merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes maître de recherche à la Fondation pour la Recherche Stratégique, spécialiste du Moyen-Orient et grande connaisseuse de la situation au Liban. Avec nous également Christian Chéneau. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste au service international de Radio France, spécialiste également du Moyen-Orient. Christian Chéneau, Agnès Levallois, vous restez tous les deux avec nous tout au long de l'émission pour nous donner les clés d'analyse de la situation très complexe dans laquelle se trouve le Liban aujourd'hui. On va commencer, Oana, par un petit point sur la situation humanitaire et notamment dans les hôpitaux. L'explosion d'hier soir a fait 135 morts et près de 4000 blessés. C'est le dernier bilan officiel. Autant de blessés qui affluent vers des hôpitaux déjà saturés par les patients atteints du coronavirus. Agnès Levallois, le système de santé libanais avant cette crise, dans quelle situation était-il ?
Écoutez, c'est un système qui n'est pas en très bon état, c'est-à-dire que vous avez beaucoup d'hôpitaux, mais vous avez surtout beaucoup de cliniques privées, donc vous avez un système privé qui fonctionne à peu près, mais qui coûte très très cher et qui est donc réservé à une partie, une infime partie des Libanais. Et vous avez un système public qui, lui, a les plus grandes difficultés parce qu'il manque de moyens financiers pour pouvoir se développer. Et il y a donc eu une espèce de concurrence qui s'est mise en place lorsque la pandémie du Covid a commencé entre les communautés, chaque chef de communauté faisant valoir qu'il avait un système de santé meilleur que son voisin. Alors que, en fait, si la pandémie avait vraiment éclaté, le système de santé au Liban n'était pas en mesure d'assumer et d'offrir suffisamment de moyens aux hôpitaux. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que depuis des mois maintenant, avec la crise financière que connaît le pays, il y a tout un tas de médicaments qui ne sont plus, qu'on ne trouve plus au Liban, puisqu'il n'y a plus de devises pour pouvoir acheter des traitements à l'étranger. Et donc, vous avez aujourd'hui beaucoup de maladies qui ne sont plus soignées si vous n'avez pas quelqu'un qui arrive de l'étranger avec votre traitement. Donc la catastrophe d'hier se déroule à un moment où le système de santé est dans un état quand même extrêmement critique.
Le système est sous pression. Christian Chéneau, savez-vous où en est la pandémie au Liban ? Le pays a été confiné dès le mois de mars. C'est l'un des pays du Moyen-Orient qui a été très touché par le coronavirus.
Oui, le Liban a été touché. Mais le Liban a assez bien réagi au début, c'est-à-dire qu'il y a eu des mesures qui ont été prises de distanciation sociale, les gens restaient à la maison. Contrairement à la France, au Liban, on n'a pas manqué de masques. On a fabriqué des masques, on a fabriqué aussi des respirateurs artificiels. Et le problème, c'est qu'après, au fil du temps, cette situation s'est un peu dégradée, notamment parce qu'il a fallu rapatrier beaucoup de Libanais à l'étranger, notamment des étudiants ou des gens qui étaient en voyage ou expatriés. Et ces gens ont ramené finalement le virus au Liban et les mesures barrières se sont un peu distendues. Et c'est vrai que sur ces dernières semaines, il y a eu beaucoup de contaminations à tel point que les hôpitaux ont refusé d'ailleurs de prendre de nouveaux patients, étaient un peu surchargés et donc on était dans une phase très critique.
Alors, nous sommes en ligne depuis Beyrouth avec un médecin, le docteur Ismaël Assouné. Bonsoir. Ah, alors, on l'aura un petit peu plus tard, il n'est pas encore en ligne avec nous. On voulait faire le point avec lui justement sur la situation dans les hôpitaux libanais. On va donc continuer sur la question humanitaire avec Vincent Gelot. Est-ce que vous êtes là?
Oui, je suis là, oui, je vous entends.
Vincent Gelot, vous êtes responsable projet de l'œuvre d'Orient au Liban. Vous travaillez sur des projets humanitaires et notamment en lien avec les écoles françaises. Vous étiez dans l'ambassade de France, je crois, hier soir pendant la déflagration.
Oui, tout à fait. C'était juste avant 18h. On était justement en train de finaliser tout ce travail sur les écoles du Liban, un travail qui nous avait demandé plusieurs semaines avec l'ambassade, parce que c'était en collaboration entre l'œuvre d'Orient et le gouvernement français. Quand il y a eu les deux déflagrations, en fait, il y en a eu une première qui nous a tous fait, qui a fait trembler les murs et les sols, puis une seconde qui nous a projetés au sol et qui nous a, enfin, qui a fait effondrer les faux plafonds, exploser les vitres. Bon.
Ah, on ne vous entend plus. Vincent Gelot, vous êtes toujours là? Gelot, pardon. On a perdu la liaison avec Vincent Gelot, mais nous sommes en ligne avec Laure Stéphane au Anna Favennec.
Oui, Laure Stéphane, bonjour.
Bonsoir.
Bonsoir. Nous vous entendons sur France Culture depuis hier soir nous raconter les blessés, la panique, les vitres soufflées. Beyrouth qui se réveille dans la douleur. Vous suivez pour Radio France la situation depuis la double explosion. Ça s'est passé hier, donc un peu avant 17h30. Vous êtes rendu sur place quelques minutes plus tard et vous nous racontez donc une ville en plein chaos. C'est ce que vous avez vu, vous, juste après la double explosion.
Une ville en plein chaos, absolument. Hier soir, c'était la confusion la plus totale, la peur des gens qui voulaient aider, des ambulances dans tous les sens. Et puis voilà, ces scènes qu'on s'est malheureusement habitué à voir avec des dommages, des débris de verre partout, des choses cassées. Mais ce qui est très différent, c'est ce que disait Vincent il y a quelques minutes, c'est la puissance de la seconde explosion et les dommages qu'elle a fait, c'est d'une étendue absolument effarante.
Et est-ce que la sidération qui a prévalu d'abord a laissé ensuite place à quelque chose d'autre?
Alors je crois qu'on est encore dans ce moment de sidération, en fait, même une forme d'incrédulité chez certains Libanais. Mais aujourd'hui, ce qui est manifeste, je suis en ce moment juste au-dessus du quartier de Marmirail, l'un de ceux qui a subi le plus de dommages. Et ce qui est manifeste, c'est la mobilisation des jeunes Libanais. La rue est pleine de jeunes qui veulent aider. Il y en a certains qui ont un balai à la main pour justement enlever les débris dans les maisons pour les rendre, si c'est pas habitable, en tout cas un petit peu plus sûr pour les personnes qui ne veulent pas quitter leur appartement. Il y en a d'autres qui ont de l'eau, qui ont de la nourriture, qui les distribuent. Et ils le disent tous, ils veulent être là, ils veulent montrer qu'il y a une unité, que cette unité libanaise, elle peut exister, elle existe. Et ils veulent prêter main forte, ils sont sous le choc en fait encore.
Il y a aussi beaucoup d'habitants de Beyrouth qui ont fui la ville dès hier. Vous avez pu observer ça, un exode un peu massif?
Alors, ce que j'ai vu, c'était pas un exode massif, mais c'était effectivement dans la nuit noire et dans un autre quartier qui a été très endommagé, qui s'appelle La Quarantaine, qui est juste à côté du port. Oui, il y avait des gens qui fuyaient. Des familles ou des femmes. Il y avait aussi des hommes qui restaient et qui étaient décidés à monter la garde, parce que ça, c'est un truc qu'on entend un petit peu partout, c'est la peur qu'il y ait des pillages au milieu de du chaos qui est en train de régner. Pour vous donner une idée, là, je regarde autour de moi, il n'y a pas un immeuble où il y a encore des vitres qui sont intactes, tout est brisé, on peut rentrer facilement donc aussi dans les immeubles. Il y a beaucoup d'immeubles qui sont vides. Donc voilà, il y a à la fois des gens qui veulent ou qui doivent absolument être dans un lieu sûr parce que leur maison est devenue inhabitable. Et il y a des gens qui ont peur de perdre le peu qui est resté encore debout dans ces maisons.
Merci Laure Stéphane, je rappelle que vous êtes la correspondante de Radio France à Beyrouth. Et il y a aussi un compte Instagram, Locate Victims Beirut, qui a été créé hier soir pour diffuser les noms et les portraits des disparus. Il y a déjà une centaine de portraits d'hommes et de femmes qui ont été publiés.
On est ensemble jusqu'à 19h sur France Culture pour évoquer la situation au Liban, le chaos libanais. Et on a retrouvé Vincent Gelot, responsable du projet de l'œuvre d'Orient au Liban. Vous êtes là ?
Oui, je suis là.
Vous nous racontiez à l'instant comment la déflagration vous a surpris alors que vous étiez dans l'ambassade en France. Vincent Gelot, vous êtes arrivé au Liban il y a quelques semaines dans le cadre d'une œuvre humanitaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle était la situation et les besoins humanitaires sur place avant cette déflagration ?
Alors moi, j'habite au Liban depuis... mais c'est vrai que la situation humanitaire était déjà catastrophique. Honnêtement, le pays était déjà dans une descente aux enfers. Sur le plan économique, on était à une dépréciation de la livre libanaise vraiment hallucinant depuis octobre dernier. Le taux de pauvreté avait dépassé le seuil des 50%, le taux de chômage les 35%, la population était en train de s'appauvrir. Et puis on était face aussi à la crise du Covid-19, donc qui a encore affaibli davantage la situation. Donc le pays était vraiment face à un gouffre déjà. Nous travaillions sur l'aide aux écoles de ce pays qui sont aux écoles francophones qui sont très nombreuses et qui sont réellement au bord du gouffre. Et je dois dire que toutes les écoles qu'on a visitées avant cette explosion aujourd'hui sont très endommagées. En tout cas celles de Beyrouth et certaines sont même par terre. Donc cette explosion est en fait une goutte d'eau qui fait déborder un vase déjà bien rempli.
Christian Chéneau, justement sur la situation notamment des réfugiés, il y a énormément de réfugiés syriens qui sont sur le sol libanais, ça représente une proportion de la population assez incroyable. Que va-t-il advenir d'eux ?
Alors, il faut savoir que ce sont des centaines de milliers de réfugiés syriens qui ont fui à partir de 2011-2012. Beaucoup sont partis en Turquie, mais évidemment, on parle peut-être d'un million de réfugiés syriens qui se sont rapatriés sur le Liban. Il faut savoir que depuis un an, la situation économique du Liban s'est tellement dégradée que certains réfugiés syriens commençaient à même revenir chez eux parce que la situation devenait intenable, parce que l'argent ne veut plus rien, que même les organisations internationales sont débordées, et donc certains d'entre eux commençaient à rentrer tellement c'était intenable. Alors c'est vrai que ce poids entre guillemets des réfugiés syriens a aussi pesé dans la crise économique au Liban, mais c'est vrai que aussi c'est là, je dirais, le système politique libanais, toutes ces 30 ans de gabegie, d'incurie qui a finalement plongé le pays dans cette situation. Mais encore une fois, les Syriens sont aussi en première ligne parce que ils sont pas dans des camps de réfugiés, ils sont un peu à droite à gauche. Et encore une fois, certains commençaient à rentrer tellement la situation devenait invivable.
On aura l'occasion de revenir justement sur la crise politique et économique et financière d'ailleurs que traverse le Liban depuis quelques mois. Mais nous avons retrouvé la liaison à Beyrouth avec le docteur en direct donc d'un hôpital de Beyrouth. Bonsoir.
Bonsoir.
Ismaël Assouné, quelle est la situation actuellement dans les hôpitaux ? Quelles sont les urgences, les priorités ? On parlait tout à l'heure de manque de matériel médical.
La situation était déjà dramatique. Moi, j'étais en mission pour le Covid et on se trouve maintenant actuellement pour notre plan d'urgence concernant l'explosion. Et donc là, on a fait le nécessaire pour aider avec nos collègues libanais et avec notre partenaire pour faire face à une situation dramatique, c'est-à-dire les hôpitaux à Beyrouth sont complètement saturés et on en voit actuellement des blessés dans des régions qui sont très très lointaines, c'est-à-dire 80-90 kilomètres loin de Beyrouth. Il y a bien sûr manque d'équipement, manque de places et surtout une économie complètement exsangue et complètement débordée. Voilà la situation dans les hôpitaux. Les gens n'arrivent pas à payer, n'arrivent pas à arriver à être soignés.
Au-delà de l'hôpital de Beyrouth, est-ce qu'il y a d'autres hôpitaux qui prennent en charge les blessés ? Je pense notamment à l'hôpital de Tripoli.
Récemment, on a envoyé pas mal de blessés, même à Nabatieh, au sud Liban, à Tyr, on a envoyé, bien sûr à Tripoli aussi, on envoie un peu partout maintenant. Le nombre de blessés dépasse les 4000.
Excusez-moi, le nombre de blessés déplace les 4000 et le bilan ne cesse d'évoluer a priori.
C'est à leur dire, bien sûr, parce qu'il y a pas mal d'endroits où ils n'ont pas encore enlevé les décombres et il y a probablement des décès et des blessés encore sous les décombres.
Merci docteur Ismaël Assouné depuis Beyrouth. On consacre donc cette émission au chaos libanais jusqu'à 19h sur France Culture. Oana Favenek.
La France s'est positionnée en première ligne pour aider le Liban en envoyant aujourd'hui 3 avions d'aide humanitaire. On écoute le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian qui parlait cet après-midi du Liban comme d'un pays frère.
Nous avons des liens historiques, je viens de le dire, mais il fallait aussi être réactif et c'est ce que nous essayons de faire le mieux possible puisque 3 avions partent à l'instant au Liban avec à la fois des médecins, des sapeurs-pompiers de Marseille, de la sécurité civile du ministère de l'Intérieur, 25 tonnes de matériel pour aider aussi non seulement à l'aide médicale mais aussi à l'accompagnement pour rechercher des survivants. Tout cela est normal dans un pays frère comme est le Liban pour la France, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi mobiliser la communauté internationale et nous allons être amenés dans les heures qui viennent à faire des propositions de mobilisation pour que l'ensemble des acteurs internationaux viennent au secours de ce pays parce qu'il y a des morts, il y a des blessés, puis il y a aussi une population dans le désarroi, sans logement, hébétée devant ce qui vient de se passer. Il faudra donc penser aussi à cela, de l'aide humanitaire, de l'aide alimentaire. Et la France va être à ce rendez-vous-là parce que c'est de sa responsabilité de prendre le leadership pour tout ce soutien international qui est indispensable.
Emmanuel Macron se rend sur place demain. Sophie Delpont, bonjour.
Bonjour.
Dès hier soir, il avait commencé, le président de la République française, à réagir sur Twitter. Un président très réactif pour apporter un appui immédiat aux Libanais.
Oui, j'exprime ma solidarité fraternelle avec les Libanais après l'explosion qui a fait tant de victimes et de dégâts ce soir à Beyrouth. La France se tient aux côtés du Liban, toujours. Des secours et moyens français sont en cours d'acheminement sur place. Voilà les mots du président de la République dès hier soir sur Twitter. Un message suivi immédiatement d'un second tweet, les mêmes messages en fait traduits en arabe pour incarner encore un peu plus cette volonté de montrer une solidarité très forte entre la France et le Liban. Cette nuit, Emmanuel Macron a annoncé le déploiement d'un détachement de sécurité civile, l'arrivée de plusieurs tonnes de matériel humanitaire ainsi que de médecins urgentistes pour renforcer les hôpitaux. Et en début d'après-midi, un troisième tweet annonce sa venue à Beyrouth dès demain à la rencontre du peuple libanais, selon les termes employés par le président de la République. Nous ferons le point sur la situation avec les autorités politiques, ajoute Emmanuel Macron, qui doit rencontrer le président libanais et le premier ministre à Beyrouth. En parallèle, le chef du gouvernement français Jean Castex tient depuis 16h cet après-midi à Matignon une réunion pour coordonner l'aide envoyée par la France au Liban. 8 ministres ou leurs représentants y participent, pour la plupart en visioconférence. Affaires étrangères, les armées, l'intérieur, la santé, l'économie, la justice, les transports, ainsi que le porte-parole du gouvernement français. 2 avions sont effectivement partis de Roissy avec du matériel, 25 tonnes à l'intérieur, des équipes de sécurité du ministère de l'Intérieur, ce qu'a confirmé le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian. Un troisième appareil parti de Marseille doit arriver à Beyrouth, a annoncé le chef du gouvernement, avec à l'intérieur des équipes d'intervenants médicaux immédiatement opérationnels, précise le Premier ministre, véritable cheville ouvrière de la stratégie lancée dès hier soir par Emmanuel Macron. En parallèle, on apprend que la ville de Paris et la région Île-de-France annoncent l'envoi d'une aide financière pour les Libanais et que ce soir, en signe de solidarité, la Tour Eiffel sera éteinte à minuit en hommage aux victimes de Beyrouth.
Sophie Delpont.
Christian Chesneau, pardon, excusez-moi, la venue d'Emmanuel Macron le lendemain, enfin il arrivera demain, 2 jours après la déflagration, elle fait aussi écho à ce qui s'est déjà passé dans l'histoire. François Mitterrand était sur place le lendemain des attentats de Beyrouth en 1983. Jacques Chirac s'est rendu sur place le lendemain de l'assassinat de Rafik Hariri. Est-ce qu'Emmanuel Macron s'inscrit finalement dans une sorte de continuité historique?
En tout cas dans une proximité proximité avec le Liban. Ça, c'est clair. Hein. Faut pas oublier que au début de son mandat, c'est Emmanuel Macron qui a sorti Rafik Hariri, alors prisonnier en Arabie Saoudite. Donc il y a un lien très fort entre la France, la classe politique et le Liban, la famille Hariri et les autres. Donc c'est vrai que le geste d'Emmanuel Macron est fort. Il est symbolique. Il vient donc rappeler que la France se tient aux côtés du Liban dans ces moments difficiles, mais le communiqué de l'Élysée indique qu'il va voir toutes les forces politiques. C'est-à-dire que il faut se rappeler que la récente visite de Jean-Yves Le Drian s'est mal passée à Beyrouth, hein, parce que juste avant la crise, le Liban quémandait de l'aide internationale et la France et les autres pays internationaux lui refusent parce que le Liban n'a pas entamé des réformes profondes de gouvernance, de transparence. Et donc là, évidemment, cette tragique explosion change un peu la donne. L'aide international humanitaire va se mobiliser, hein, les Européens, mais pas que, les Américains, les pays du Golfe. Mais Emmanuel Macron va quand même aussi faire passer le message, on vous aide évidemment parce que les circonstances sont tragiques, mais c'est pas un chèque en blanc. C'est-à-dire que c'est pas pour autant qu'on va décaisser des milliards. Vous avez rappelé tout à l'heure que le gouvernement libanais parle de 3 milliards de dollars pour reconstruire Beyrouth. Ça, on verra après. Il y a nécessité de réforme et les Libanais le demandent. D'ailleurs, je vous propose d'écouter Nadim Houri, qui est directeur du think tank Arab Reform Initiative et qui justement ne veut pas de chèque en blanc pour le gouvernement libanais qui est corrompu.
On va avoir le son qui devrait arriver d'ici quelques secondes. Le son, on l'écoutera.
On l'écoutera après.
Ouais, voilà.
Mais voilà, donc les Libanais, en tout cas le peuple libanais, ne veut pas que l'aide internationale soit détournée par un système corrompu et qui est finalement moribond.
Et le son est prêt. Avec quelques secondes de retard, on l'écoute.
Tout indique que c'est une négligence criminelle. Laisser cette quantité de produits explosifs comme ça dans le port pendant des années sans prendre des précautions, c'est le message de trop. Il faut que la communauté internationale aide les Libanais à se débarrasser de cette classe politique corrompue. Il faut soutenir les Libanais à se redresser eux-mêmes. C'est tout ce qu'ils demandent. Les Libanais aujourd'hui, tout le sentiment, c'est de dire, vous voulez vraiment nous aider? Aidez-nous à nous débarrasser de cette classe politique. Ce ne sont pas des hommes d'État qui sont en charge. Ce sont des criminels et il faut que la communauté internationale les traite pour des criminels. Aujourd'hui, le soutien de la France est bien sûr primordial et beaucoup de Libanais en sont reconnaissants. Il faut juste être méfiant. Il ne faut pas que la visite d'Emmanuel Macron donne quelque part une forme de légitimité à cette classe politique corrompue. Le message doit être la France se tient à côté des Libanais et elle sait très bien que la souffrance et la misère et la crise économique aujourd'hui au Liban n'est pas un acte de Dieu, n'est pas un accident, c'est le fait d'une classe politique et que la France en est consciente. Oui, à aider le Liban et les Libanais, non à soutenir ou à donner quelconque légitimité à cette classe politique, pas simplement corrompue, meurtrière. Plus de la moitié d'entre eux, ce sont des criminels de guerre. Et la grande erreur de la sortie du Liban, c'est qu'en 1990, on ne les a pas jugés.
C'était, vous pouvez nous rappeler...
Nadim Houri, qui est le directeur du think tank Arab Reform Initiative à Paris, qui est libanais, qui a longtemps travaillé à Human Rights Watch et qui connaît parfaitement la situation au Liban.
Nous sommes en ligne également avec Michel Touma, qui est le rédacteur en chef de L'Orient Le Jour. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes à Beyrouth. Une question, Michel Touma, on a l'impression qu'il fallait cette explosion pour que tout d'un coup la communauté internationale s'intéresse au cas du Liban qui était déjà, comme on l'explique depuis tout à l'heure, dans une situation politique, financière, humanitaire très compliquée. Est-ce que finalement cette explosion va permettre peut-être de faire bouger les choses de ce point de vue-là?
Je pense, oui. Jusqu'à hier, la situation était un peu bloquée dans les rapports entre le Liban et la communauté internationale, parce que l'aide au développement, l'aide économique qui avait été promise au Liban en 2018 à Paris, au cours d'une rencontre à l'initiative du président Macron, était bloquée parce que la communauté internationale et la France réclamaient la mise en place de réformes structurelles. Lesquelles réformes n'ont jamais été mises en place, justement. Ce qui bloquait l'aide économique et ce qui a aggravé la crise économique et sociale et financière à laquelle le Liban est confronté depuis presque un an. Donc, ce qui s'est passé hier, évidemment, a mobilisé la communauté internationale et les pays européens et les pays du Golfe pour venir en aide au Liban. Mais ça, c'est une aide, évidemment, une aide d'urgence, une aide médicale, une aide humanitaire qui ne règle pas les problèmes de fond. Évidemment, les réformes doivent toujours être mises en place. On ne peut pas réédifier un État stable, un État capable, sans la mise en place de ces réformes qui portent sur le secteur de l'électricité, sur l'administration publique, sur la corruption. Bref, il y a toute une série de réformes qui doivent être mises en place. Le président Macron, sans doute, vraisemblablement, va rappeler ce message aux dirigeants libanais. Mais là, il y a un nouvel élément qui est intervenu depuis hier, c'est la reconstruction. Nous ne sommes plus uniquement dans un cas de figure d'aide pour les infrastructures libanaises, d'aide économique. Maintenant, il s'agit d'accorder au Liban une aide à la reconstruction. Le port de Beyrouth, qui est le poumon du pays, a été totalement détruit. Il ne reste plus rien du port de Beyrouth. Les silos de blé qui étaient au port ont été, le bâtiment a été totalement détruit. Si vous voyez les images, on a l'impression qu'il a été coupé en deux avec une hache ou un couteau. Carrément de haut en bas, c'est comme si on avait coupé ce bâtiment, et c'était un bâtiment impressionnant, c'était un très grand bâtiment impressionnant qui faisait la fierté de l'État libanais. Ce bâtiment rappelle, si vous voyez les images, on a l'impression que le Liban a vécu son 11 septembre. Ce qui s'est passé hier, c'est le 11 septembre libanais. Si vous voyez les images, ça rappelle un peu, évidemment à l'échelle libanaise, les images du World Trade Center avec tous les morceaux de ferraille qui pendouillaient des immeubles et qui étaient dans la rue. Ça rappelle un peu le spectacle du 11 septembre.
Effectivement.
C'était un 11 septembre libanais hier.
Effectivement, ce sont des images qui resteront dans les mémoires. Merci Michel Touma, rédacteur en chef de L'Orient Le Jour. On va retrouver Agnès Levallois, maître de recherche à la Fondation pour la Recherche Stratégique et spécialiste du Moyen-Orient.
Et donc le port de Beyrouth, c'est en fait le cœur économique. Pour l'instant, il est complètement bloqué.
Oui, bien sûr, le port est complètement détruit. Mais ce sur quoi il faut insister ce soir, c'est qu'après le drame de cette explosion, de ces explosions d'hier, ce que ça veut dire, c'est que c'est le énième épisode d'un système qui est un système qui est complètement fini, qui ne peut plus fonctionner, avec une classe politique, comme ça a été dit précédemment, qui n'est pas en mesure de gérer quoi que ce soit. Et donc la grande question qui se pose aujourd'hui, comment aider les Libanais qui, en octobre dernier, je le répète, sont descendus dans la rue pour dire qu'ils ne voulaient plus de ce système communautaire, ce système communautaire qui a conduit le pays à la faillite dans laquelle il se trouve aujourd'hui. Et donc comment aujourd'hui aider les Libanais sans aider cette classe politique à qui il ne faut plus donner le moindre oxygène, puisque c'est une classe politique qui a démontré son incapacité et au-delà de son incapacité à gouverner, qui a conduit aussi à un drame pareil. Il faut quand même rappeler que cet entrepôt dans lequel il y avait ces produits était là depuis 7 ans sans qu'aucun gouvernement ne se préoccupe des conditions de stockage avec le risque d'explosion que nous avons vécu hier. Donc, ce qui veut dire que cette classe politique ne gère rien, que les infrastructures étatiques ne gèrent rien, ne sont même pas capables de gérer un dépôt d'explosifs avec le risque que ce que cela implique. Et donc, tout ce qui doit être mobilisé aujourd'hui auprès de la communauté internationale, comme l'a très bien dit Nadim Khoury tout à l'heure, il ne s'agit pas de redonner une quelconque légitimité à cette classe politique qui a participé au drame d'hier, en ce sens qu'aucune mesure de protection n'a été prise pour protéger les citoyens, en l'occurrence en laissant cet entrepôt de la sorte. Donc je crois que dans le discours de la communauté internationale et d'Emmanuel Macron qui se rend demain à Beyrouth, il s'agit vraiment de se tenir à côté des Libanais qui depuis octobre réclament autre chose, réclament la fin de ce système communautaire qui a conduit à la faillite, des Libanais qui demandent un État laïque qui puisse répondre
à leurs attentes de ce que doit produire un État sur ses citoyens. Et donc là, il ne faudrait pas tomber avec l'émotion qui est grande, qui est normale, parce que c'est un drame que vit le Liban, le énième drame que vit le Liban, mais il ne faudrait pas que ça occulte les questions politiques de fond, à savoir d'une classe politique qui ne peut rien régler, d'un système à bout de souffle, et d'accompagner les Libanais, s'ils le souhaitent, vers l'établissement d'un État autre qui serait en mesure de gérer ce que doit gérer un État, à savoir la sécurité de ses citoyens, un système de santé digne de ce nom, un système éducatif, et que les gens puissent se nourrir simplement. Aujourd'hui, il y a un taux de pauvreté au Liban qui est absolument considérable, qui est donc la preuve que cette classe politique n'est même plus capable d'offrir, de permettre à sa population de se nourrir. Donc la question aujourd'hui, elle va bien au-delà de ce drame qui est un espèce de révélateur terrible, dramatique, de la situation dans laquelle les Libanais vivent depuis maintenant des années et qui est entretenue par la communauté internationale. Et donc je crois que là, il y a une responsabilité de cette communauté internationale qui est de ne plus soutenir ce système qui est plus que failli, qui est par terre, qui n'existe plus, pour permettre aux Libanais de reprendre les choses en main avec ce que eux souhaitent, ce qu'ils veulent eux, et non pas ce que nous pouvons projeter, les pays occidentaux, sur ce que doit être le Liban. Ce n'est pas à nous à dire ce que doit être le Liban, mais aux Libanais qui disent depuis le mois d'octobre qu'ils veulent autre chose et qui souhaitent une autre politique que celle qui est menée par ces anciens chefs de guerre qui se sont reconvertis en chefs politiques.
Agnès Levallois, il y a un verdict de justice qui devait tomber ce vendredi concernant l'assassinat de Rafik Hariri. 4 hommes qui sont affiliés au Hezbollah étaient jugés pour le meurtre de Rafik Hariri. On vient d'apprendre que le verdict va être repoussé. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose ?
Évidemment qu'il est repoussé dans le contexte actuel, puisqu'on voit bien qu'on est dans un système, dans une période qui est absolument dramatique pour les Libanais, et donc le verdict ne peut que rajouter de la tension dans un contexte qui lui-même est extrêmement, sans faire de mauvais jeux de mots, qui est explosif. Donc on comprend bien la volonté de reporter ce verdict, mais ce que ça dit aussi, ce report, c'est que les questions graves qui se posent au Liban ne sont jamais réglées. Et c'est quand on voit qu'à la fin de la guerre, on a décidé finalement, les Libanais ont décidé d'une amnistie pour partir sur autre chose, pour que le pays redémarre. On voit bien qu'on ne peut pas faire l'économie de regarder l'histoire en face et que donc les Libanais qui ont fait cette amnistie pour pouvoir repartir dans la reconstruction du pays payent aujourd'hui très cher le fait que, on a fait abstraction finalement de ces années de guerre. On a cru qu'on pouvait repartir comme si de rien n'était et finalement ça n'est pas possible. Et donc dans le verdict qui est attendu là concernant les responsables de l'assassinat de l'ancien premier ministre libanais, il va falloir qu'un jour ce verdict puisse sortir. Après, dans quelles conditions toute cette enquête a été menée, on sait que ça a été extrêmement délicat et que là, on rentre aussi dans des rapports de force locaux et régionaux, puisque dans les responsabilités qui sont pointées du doigt, on sait bien qu'il y a aussi toute la question régionale qui va se passer. Donc c'est vrai que le Liban est aussi aux confins de ces différentes questions, aussi bien la question intérieure qui est aujourd'hui est centrale, mais on sait que le Liban est aussi dépendant d'un contexte régional et d'un contexte international. Donc c'est pour toutes ces raisons que ça devient extrêmement compliqué de dénouer tous ces fils, mais que ces fils doivent être tous dénoués pour que les Libanais puissent enfin reprendre un peu la main sur leur histoire.
Merci
et sur ce qu'ils veulent
Agnès
faire.
Levallois, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes maître de recherche à la Fondation pour la Recherche Stratégique et spécialiste du Moyen-Orient. Oana Favenek.
Vous écoutez France Culture, il est 18h41 et tout de suite la suite de notre émission spéciale consacrée à la situation au Liban 24 heures après la double explosion qui a frappé le port. Sébastien Berriot, bonjour. bonjour.
Oui, bonsoir.
Bonsoir, oui. Vous êtes journaliste à la rédaction internationale de Radio France. L'enquête a démarré dès hier soir à Beyrouth. Où est-ce qu'on en est?
Alors, dès hier soir, le Conseil des ministres s'est réuni en urgence et a décidé de mettre en place une commission d'enquête dirigée par le pouvoir libanais, une instance politico-militaire. Le commandement de l'armée y est directement associé. Alors, ce qui peut surprendre, c'est le délai qui a été donné à cette commission pour rendre ses conclusions. Il est très court, 5 jours à peine dans ces conditions. Donc, dès hier soir, l'enceinte du port a été bouclée par les militaires. Les enquêteurs sont déployés sur les lieux des explosions et qui ont été totalement interdits à la presse.
Et quelles sont les différentes hypothèses qui sont évoquées à ce stade?
Alors l'hypothèse principale, c'est celle d'un accident industriel. Selon plusieurs responsables libanais, les explosions ont été provoquées donc par la présence dans l'entrepôt du port de cette très très grosse quantité, 2750 tonnes de nitrate d'ammonium, un composant hautement explosif utilisé pour la fabrication d'engrais dans l'agriculture. Ces produits chimiques étaient entreposés là depuis 6 ans dans des conditions de sécurité très douteuse, sans protection particulière malgré le danger. Les enquêteurs vont devoir établir la chaîne de responsabilité. Comment le chargement est-il arrivé sur le port de Beyrouth et pourquoi a-t-il ensuite été abandonné sur place pendant aussi longtemps? La presse libanaise évoque la saisie du chargement pour rembourser une dette contractée auprès d'un homme d'affaires libanais. Le pouvoir judiciaire est potentiellement mis en cause dans cette affaire. Le patron des douanes explique que ses services ont alerté la justice à 6 reprises du risque et que rien n'a été fait. Alors ça, c'est pour la thèse d'un accident industriel, mais les enquêteurs vont aussi se pencher sur la piste d'une attaque menée par une puissance étrangère, en l'occurrence Israël. Selon nos informations, cette possibilité est évoquée par les autorités libanaises, même si pour le moment, rien de concret ne vient étayer l'hypothèse. Seul élément, hier soir, quelques secondes avant les explosions, des avions non identifiés ont survolé Beyrouth en franchissant le mur du son. Tous les habitants de la capitale les ont entendus. Israël a démenti toute implication, mais les enquêteurs vont tout de même vérifier cette possibilité et voir si des roquettes ont été retrouvées ou pas sur le port de Beyrouth.
Et alors l'enquête qui démarre à peine, Sébastien Berriot, est déjà critiquée.
Oui, beaucoup de Libanais n'ont pas confiance dans leur justice, avec des conflits d'intérêts qui apparaissent déjà au grand jour. Au sein de la commission d'enquête, on trouve des représentants d'organismes qui sont eux-mêmes potentiellement mis en cause. Pour protester, un député d'opposition, Marwan Amadé, a démissionné hier soir du Parlement et il demande à Emmanuel Macron de profiter de sa visite à Beyrouth demain pour demander la mise en place d'une commission d'enquête internationale à l'ONU. Pas de commentaire ce soir du pouvoir libanais à ce sujet qui, pour montrer sa volonté de faire aboutir l'enquête, annonce que les responsables du stockage du nitrate d'ammonium sur le port vont être assignés à résidence.
Sébastien Berriot et Camille Diaou, nous allons à présent nous intéresser à ce nitrate d'ammonium, ce fameux nitrate d'ammonium à l'origine de l'explosion.
2750 tonnes de nitrate d'ammonium, c'est la même substance que celle qui était à l'origine de l'explosion de l'usine AZF en septembre 2001 en France. Gérard Riquet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes un ancien enseignant en école d'ingénieurs, vous enseignez le génie des procédés et vous avez enquêté sur l'explosion de l'usine AZF en 2001. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est que cette substance, le nitrate d'ammonium, à quoi est-ce que ça sert?
Le nitrate d'ammonium est essentiellement utilisé, il y a deux applications principales. L'une, c'est pour l'agriculture, c'est un fertilisant. Et l'autre, c'est un nitrate qu'on appelle industriel, qui est le même que le nitrate agricole, mais simplement, on change la porosité, on la rend plus grande, ce qui permet d'absorber 10 à 15% de nitrate fuel. Et à ce moment-là, ça devient un explosif. Le nitrate d'ammonium n'est pas du tout catalogué comme explosif. Par contre, on peut le rendre explosif dans des conditions très particulières.
Quelles sont les circonstances qui ont pu le rendre explosif sur le port de Beyrouth ?
Alors, il y a deux façons de le rendre explosif, soit un incendie long, des heures et des heures, dans un milieu confiné. Si le milieu n'est pas confiné, le nitrate d'ammonium va se décomposer et il n'y aura pas d'explosion. Ou alors, en plus, avec apport de carbone. Ou alors, la deuxième solution, c'est de le mettre dans un état où il reçoit un choc violent. Et ce choc violent, c'est généralement un explosif. Mais il faut à ce moment-là une quantité d'explosif assez importante.
Les images qu'on a vues hier, les images de ce grand champignon de fumée rouge au-dessus du port de Beyrouth, vous ont rappelé les images de l'explosion de l'usine AZF en France ?
Oui, tout à fait, parce que on n'a pas eu de vidéo de l'accident, de l'explosion d'AZF. Il n'y en a pas. Par contre, il y a des témoignages. Et les témoignages correspondent rigoureusement à ce que j'ai pu voir moi par vidéo, les vidéos qui ont circulé sur Internet. C'est l'explosion elle-même, la déflagration, on voit très bien l'onde de choc, et la couleur des fumées, orangé, marron, ça correspond exactement à ce qu'on a pu voir à Toulouse. Par contre, ça ne dit pas que c'est du nitrate d'ammonium, l'explosion, mais ça correspond.
Merci beaucoup Gérard Ecquet. Je rappelle que vous étiez enseignant en génie des procédés et que vous aviez travaillé sur cette substance, le nitrate d'ammonium, responsable de l'explosion qui a balayé la capitale libanaise. Il est 18h48 dans quelques secondes sur France Culture. On est ensemble jusqu'à 19h pour continuer à évoquer la situation au Liban. Et c'est l'ancien ministre des Affaires étrangères Bernard Kouchner qui vient de nous rejoindre. Bonsoir.
Bonsoir.
Et Bernard Kouchner, quel est votre sentiment ce soir sur la situation au Liban ?
Grande colère, horreur, bien sûr, horreur. Encore une plaie supplémentaire, encore des blessés, encore des milliers de gens qui pouvaient aspirer, même au milieu de la crise économique qu'ils traversaient, qui pouvaient aspirer à une vie presque normale, difficile, très difficile, mais normale, et les voilà à nouveau blessés. Et alors pour ceux qui connaissent le Liban, et surtout les Libanais, parce que ce sont les Libanais qui souffrent, Beyrouth, c'est le nom de la rencontre aussi, c'est le nom des endroits où on vivait très bien lorsqu'il y a la paix, et depuis presque 50 ans, il n'y a plus de paix. Voilà, donc c'est effrayant, c'était presque trop beau, ces champignons et ces malheurs, plus ces vitres partout, ces gens qui saignent. Enfin, voilà. Pour une fois, tous les pays voisins étaient en guerre et le Liban ne l'était pas. Et ben, vous voyez, ça n'aura pas duré longtemps.
Et à votre avis, la France fait-elle ce qu'il faut ?
La France fait toujours ce qu'il faut pour le Liban. Elle en fait souvent trop même. Parce que nous n'avons, vous savez, les accords de Taïf sont ceux qui réglementent la façon dont un chrétien doit être président, dont un sunnite doit être chef du Parlement, et un sunnite doit être chef du gouvernement, pardon, et un chiite chef du Parlement. Alors, c'est-à-dire qu'on entérinait ces différences qui sont moyenâgeuses et il fallait depuis longtemps. Depuis très longtemps, on l'a fait d'ailleurs, mais ça n'était pas suffisant. Essayer d'avoir une république avec des voix qui se mêlent, avec des voix qui se valent, et avec des élections qu'on n'aurait pu ne pas truquer, bien sûr. Je vous rappelle que le premier ministre sunnite, M. Hariri, a été assassiné, pas loin d'ailleurs du port où a explosé cet ammonium, et que pour les Libanais, ça rappelait sinistrement, de façon effrayante, ça rappelait évidemment les guerres.
Oui, effectivement. Christian Chéneau de la rédaction internationale, vous avez une question pour Bernard Kouchner.
Oui, Bernard Kouchner, vous connaissez bien le Liban. Vous avez d'ailleurs fréquenté la classe politique libanaise quand vous étiez ministre des Affaires étrangères sous Nicolas Sarkozy. De votre point de vue, est-ce que ce système libanais, donc né des accords de Taïf, est réformable ? Comment le changer, selon vous ?
Il faut le changer, je viens de vous le dire. Mais le changer, mon cher, nous ne sommes pas Libanais. C'était un protectorat. Nous avons fait ce que nous avons pu avec une Syrie qui n'a jamais reconnu le Liban. Jamais, hein. Regardez les cartes syriennes et l'occupation syrienne pendant des années. Il a fallu un grand choc pour que les Syriens, les soldats s'en aillent. Et il faut qu'il y ait une pression internationale. La pression internationale, c'est l'ONU. Il n'y a pas d'autre organisation internationale capable ou non de faire ça, et donc il faudrait qu'il y ait une entente entre les quatre membres du Conseil, les cinq membres, pardon, du Conseil de sécurité. C'est pas le moment d'y penser, parce que au Moyen-Orient, la distribution des cartes s'est faite de façon complètement irrationnelle avec M. Erdogan, qui est contre ou qui est pour, ça dépend où, avec Poutine, avec les Américains qui sont partis, avec les Anglais qui n'existent plus, et avec les Français qui ont une bonne volonté, mais ça suffira pas. Il faut une énorme pression internationale. Sait-on la faire? Non, je pense que c'est bien que Emmanuel Macron soit au Liban. Il demandera à Aoun, mais Aoun est un traître de comédie. Le président, oui, il était président, il était l'allié du Hezbollah après avoir fait la guerre. Enfin, écoutez, le Liban, il faut en faire une chanson de geste. Bon, je dis ça sans ironie, parce que j'adore les Libanais. Mon ami Kamel Mohanna est le seul. Kamel Mohanna est un médecin avec qui je travaillais dans le quartier de Bourg Hamoud, où étaient ce qu'on appelait à l'époque les palestino-progressistes. Eh bien, lui est le seul à avoir uni dans son mouvement, qui s'appelle Amel, les trois, d'avoir été complètement laïcisés. Il travaille partout, il travaille au nord, au sud, il travaille auprès des réfugiés, et il est le seul qui mélange. On a voulu les séparer de façon sinistrement religieuse. Eh bien, oui, on a joué un rôle à l'époque, évidemment, les accords de l'AEF ont amené la paix, mais c'est il y a bien longtemps.
Merci. Merci Bernard Kouchner. Je suis malheureusement obligée de vous couper car l'heure tourne, mais merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette émission consacrée au chaos libanais et à la crise que traverse le Liban. Il est 18h53, il nous reste 7 minutes à passer ensemble. Bonsoir Henriette Steinberg. Bonsoir.
Bonsoir à vous.
Vous êtes la secrétaire générale du Secours Populaire. Le Secours Populaire qui a un certain dispositif humanitaire déjà en place au Liban. Est-ce que vous envoyez de nouveaux moyens, de nouvelles choses au Liban là, dans les jours à venir?
Le Secours Populaire est ami du Liban et actif auprès de ses partenaires depuis 45 ans. Donc nous avons une certaine continuité dans la démarche. De façon systématique et pérenne, nous avons toujours, je dis bien toujours, remis les moyens financiers pour les activités de solidarité qui s'imposaient au Liban à des personnes libanaises qui étaient engagées simplement et strictement au service de la population. Nous y avons toujours veillé et nous continuons de travailler avec ces structures, ces associations et au premier chef d'entre elles, l'association DPNA, qui a dans l'ensemble de sa direction, comme dans l'ensemble de ses structures, avec des antennes dans les différentes régions du Liban, des personnes là aussi totalement désintéressées, qui ne sont pas dans les dispositifs politiques et qui se préoccupent de développer des conditions convenables dans le domaine sanitaire, éducatif, en direction de la population. Nous avions, il y a 3 semaines, envoyé déjà une contribution à hauteur de 50 000 euros pour aider nos amis de DPNA à faire en sorte que les familles qui se trouvaient victimes de la dévaluation terrifiante de la monnaie puissent avoir de quoi manger. Parce que quand on a simplement des livres libanaises, pour pouvoir manger tout simplement, et je ne vous parle pas d'un repas avec 3 plats, pour qu'on puisse faire en sorte que les enfants aient à manger, la situation devenait critique. Avec la catastrophe d'hier soir, qui dépasse l'imaginable, s'ajoutent les conséquences terribles qu'il va y avoir pour les dizaines de milliers de travailleurs qui étaient sur le port de Beyrouth. Ils sont pas tous morts. Il y en a encore beaucoup qui sont vivants, mais ils n'ont plus rien. Et leurs familles n'ont rien. Elles n'ont rien, rien à manger. Elles n'ont rien pour s'habiller. Elles n'ont plus d'abri. Il y a 300 000 personnes qui ont tout perdu. Parmi celles qui ont tout perdu, il y a celles qui n'avaient déjà pas grand-chose et qui vont se trouver face à cette situation terrible. Donc, nous avons pris la décision immédiatement d'envoyer de nouveau 100 000 euros à nos amis de DPNA pour que tout de suite des mesures soient prises, pour que les personnes qui n'ont rien puissent au moins être nourries et trouver un abri. Nous savons, parce que le Secours Populaire a malheureusement une grande expérience en la matière, qu'il faut des abris provisoires. il faudra de l'argent. Et la seule chose que je puis dire ce soir, c'est que le Secours Populaire appelle toutes les personnes, qu'elles soient physiques, morales, de bonne volonté, à donner de l'argent au Secours Populaire. Et de la même façon que nous le faisons toujours, nous rendons compte à l'euro près de l'utilisation de ces fonds. Nous savons que cet argent sera bien utilisé. Il y a aujourd'hui 300 gamins à Gésine qui sont les enfants aidés par le Secours Populaire et des PNA, et dont une partie d'entre eux sont de Beyrouth. Donc nous avons la certitude que par la solidarité, et la solidarité remise concrètement aux personnes avec lesquelles nous travaillons depuis plusieurs années, l'argent va servir effectivement à aider les personnes les plus en difficulté, à recréer des conditions de travail, et à recréer des conditions qui fassent que les Libanais puissent relever la tête, que les femmes et les enfants n'aient plus peur, et que l'ensemble des travailleurs qui viennent de tout perdre sachent qu'ils vont avoir de nouveau la possibilité de retrouver de petits emplois, de petits dispositifs, mais quelque chose qui leur génère des moyens. Pour le reste, le Secours Populaire intervient sur les conséquences. Il ne va pas vous dire comment le pays doit être dirigé. Mais ce qu'il peut vous dire, c'est qu'avec l'argent que nous aurons, que nous recevrons de toutes les bonnes volontés, qu'elles soient de France, d'Europe ou du monde, nous saurons être efficaces et utiles auprès de la population libanaise et nous en rendrons compte.
Concrètement, Henriette Steinberg,
SPF.fr,
voilà.
Par carte bancaire, sur Internet, vous cherchez Secours Populaire, faites un don, c'est très facile à remplir. Si vous voulez envoyer des chèques, vous envoyez des chèques, que ce soit au siège national, dans toutes les fédérations. Toutes les fédérations du Secours Populaire sont ouvertes dans tous les départements de France. Vous apportez des chèques, vous les envoyez, vous collectez de l'argent autour de vous et vous l'apportez. Vous créez vos propres listes de souscription, vous ramassez de l'argent et vous l'amenez au Secours Populaire. Vous serez un collecteur provisoire, vous serez non seulement bien reçu, mais vous aurez derrière le suivi de l'activité avec le Liban.
Merci Henriette Steinberg du Secours Populaire. Votre message est passé. Il est l'heure de clore cette émission spéciale sur le Liban, mais demain la discussion continue, et notamment dans les matins de France Culture. Chloé Cambrelin recevra Henri Laurence du Collège de France pour continuer à explorer et à analyser la complexité de la situation libanaise. Merci à tous nos invités ce soir. Merci à Agnès Levallois. Merci à Vincent Gelot, Michel Thomas, Sophie Delpont. Merci à tous ceux qui ont participé à cette émission. À vous aussi, Oana Favenec.
Eh ben, bonsoir, Camille.
Bonsoir. Et excusez-moi. Je cherchais les noms. On a reçu également Gérard Ecquet, Bernard Kouchner. Et merci à vous, Christian Chéneau, d'avoir été avec nous. Il est quasiment 19h sur France Culture. Je vous souhaite une très belle soirée. Tout de suite, c'est l'heure de votre feuilleton Millennium. À demain.